Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le cinquième épisode de la deuxième saison. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Amandine Richaud-Crambe. Bonjour Amandine.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Quel plaisir de te recevoir ici. D'habitude, j'avais l'habitude de te voir dans les meetings. Les meetings où on faisait bien la teuf et puis après, ou un meeting où on a pleuré aussi. Mais bref, tu peux nous parler de toi un peu s'il te plaît?
Alors, dans la vie de tous les jours, on va dire, je suis ingénieure urbaniste. Et le reste du temps, quand j'ai un peu de temps, je fais de l'activisme et aussi du militantisme, et notamment dans le conseil politique. Et j'ai eu l'honneur et le privilège d'être la directrice de campagne de Sandrine Rousseau pour la primaire des écologistes.
Super, merci beaucoup Amandine. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Fabiola Conti. Bonjour Fabiola.
Bonjour Léa, merci.
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Ça fait plaisir de te voir ici aussi. Est-ce que tu nous parleras un peu de toi, s'il te plaît?
Avec plaisir, je suis Fabiola Conti. D'ailleurs, tu as très, très bien prononcé mon nom de famille, qui vient de l'Italie, comme moi d'ailleurs. Je suis italienne de naissance et française par choix. J'ai 35 ans, j'ai travaillé longtemps dans le marketing et je suis coprésidente de Volte France, qui est le chapitre français du parti pan-européen Volte Europa, en partie né en 2017 suite au Brexit, pour une Europe plus juste, écologique et fédérale.
Génial, ravie de te recevoir. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Lamia El Haraj. Bonjour Lamia.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va bien en cette semaine agitée.
Oui, alors justement, dis-nous un peu ce que tu fais, pourquoi cette semaine a été si agitée pour toi?
Alors, moi j'ai 35 ans, je suis députée socialiste de Paris dans le 20e arrondissement et je suis aussi porte-parole du Parti socialiste. Et le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est qu'on a eu une semaine un petit peu mouvementée.
Merci beaucoup, je suis ravie de vous recevoir ici sur ce plateau virtuel de Popol. On va parler aujourd'hui de deux sujets, comme d'habitude. Hein. On va parler du meeting de Villepinte, on va l'appeler comme ça. Et puis, on va parler aussi de l'impossible union de la gauche. On commence par l'union de la gauche? Allez, c'est parti. Désespérée par un climat politique abject et découragée par une campagne qui ne décolle pas, la candidate socialiste et maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de lancer un appel aux autres candidats de gauche en leur proposant de s'unir derrière celle ou celui qui remporterait une primaire commune. La proposition a rapidement été refusée par de nombreux candidats. Yannick Jadot a refusé en rappelant qu'il avait déjà participé à une primaire. Jean-Luc Mélenchon n'a pas saisi la perche et Fabien Roussel a refusé catégoriquement. Reste Arnaud Montebourg qui a salué la démarche et qui s'est adonné à une journée de télémarketing en direct sur les réseaux sociaux pour essayer de joindre les autres candidats de gauche. En vain, les deux socialistes n'ont vraisemblablement pas réussi à convaincre les autres et l'union de la gauche en l'état reste une belle utopie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment cuit ou peut-on encore imaginer que la gauche puisse s'unir derrière un candidat ou une candidate déjà déclarée ou peut-être derrière une personnalité dont les intentions présidentielles pourraient s'affirmer bientôt? Et on va commencer avec toi, Amandine. Comment tu as regardé cet épisode?
L'épisode que j'ai observé, ma première réaction était la surprise, puisque j'avais vu Anne Hidalgo le matin sur les quatre vérités et c'était un discours complètement différent le soir sur TF1. Mais à la fois de la surprise et à la fois de l'interrogation, voire même de l'attente, puisque je me suis dit, OK, donc elle fait état d'une campagne effectivement qui décolle pas forcément, elle fait état d'autres personnalités, notamment de droite et voire d'extrême droite, qui sont omniprésentes dans les médias et dans le débat politique. Donc, elle prend ses responsabilités. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée. Et sur la tente, je me suis dit, bah, comment elle va faire? Et donc, j'ai appris que elle et ses conseillers s'étaient rapprochés de la primaire populaire. Et donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour cette primaire-là.
Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était quand même une réaction assez responsable. Tu ne trouves pas?
Oui, moi j'ai trouvé que c'était une réaction assez responsable. Maintenant, il faut être sûr des motivations. Il y a deux choses. Je me suis dit, est-ce que c'est responsable parce que il y a vraiment un enjeu et puis est-ce qu'on fait une guéguerre de parti ou est-ce qu'on va vraiment vers la présidentielle pour faire une guerre contre l'extrême droite ou est-ce que on laisse la place aussi potentiellement à quelqu'un, et quand je dis potentiellement à quelqu'un, je pense à Christiane Taubira, qui a fait un certain nombre de sorties, notamment chez Quotidien, et puis qui souhaite potentiellement se présenter ou jouer un rôle dans l'union de la gauche. En tout cas, quelles que soient les intentions de départ, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le résultat. Et est-ce qu'on arriverait à avoir un résultat d'une vraie union de la gauche? Ce serait intéressant. Hors des appareils de parti, hors des considérations personnelles et égocentriques d'un certain nombre de candidats et candidates.
Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Amandine. Fabiola, toi, comment est-ce que tu as réagi face à cette annonce?
Je rejoins Amandine en parlant de responsabilité. Si l'annonce de Anne Hidalgo est due au fait que elle voit que sa campagne ne décolle pas ou elle a peur des autres candidats et candidates omniprésents, moi je trouve que peu importe le résultat, de reconnaître que on ne peut pas y arriver seul, pour moi déjà est une excellente prise de conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Peu importe d'où ça vient, moi, je salue aussi sa vulnérabilité de dire l'heure est grave, il faudrait réfléchir à comment on peut mettre de côté les égos et travailler pour le bien commun, pour le progressisme et mettre en fait, le progressisme au centre de la campagne, chose qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Et moi, je trouve que... en ce moment, malgré les refus qu'elle a pris, certains aussi assez violents dans les minutes parfois qui suivaient l'annonce, je trouve qu'il y a toujours de l'espoir. Je ne sais pas si la perche qu'elle a tendue sera prise par les autres candidats, mais je trouve que ça montre une voie d'espoir pour quelque chose qui est vraiment une politique des idées et non pas la politique des égos. Je ne sais pas si elle fait la place à Christian Taubira, je ne sais pas si elle va se rallier derrière quelqu'un, mais je salue cette démarche qui est un peu plus à l'américaine, disons, comme la primaire démocratique. Je trouve qu'elle a pris conscience, un peu comme Kamala Harris et Bernie Sanders, de dire si on ne se met pas ensemble, on ne peut pas faire face à Trump. Pour moi, c'est une qualité aussi extrêmement importante dans une personne capable de gouverner. Ça démontre que tout seul, peut-être qu'on va plus vite, mais ensemble, on peut aller bien plus loin.
Ouais, c'est assez intéressant, effectivement, de voir comment il y a une urgence, en fait. Et cette urgence, elle est de plus en plus palpable. Plus on avance et plus on sent qu'il y a quand même... et une volonté, en fait, de la part aussi des électrices et des électeurs de gauche de voir émerger un front commun. Parce que c'est vrai que c'est désolant. C'est désolant lorsqu'on regarde de plus près, même de loin, ce qui se passe, c'est vraiment très inquiétant. Toi, Lamia, tu es au cœur du système. Comment tu as vécu cette annonce?
Moi, je t'avoue que j'étais extrêmement inquiète, notamment, on va en parler après, sur les images sorties de ce qui s'est passé à Villepinte, sur l'ambiance globale de cette campagne, sur la façon qu'a la droite et l'extrême droite de préempter complètement aujourd'hui le débat politique, alors même qu'à mon sens, il y a une urgence vitale à remettre du progrès social, à remettre le débat humaniste au cœur des priorités de cette campagne. Donc, j'ai accueilli cette nouvelle avec un certain soulagement, je ne te cache pas. Je trouve que c'est un sens de la responsabilité assez pointue que d'avoir proposé ça, et surtout de le proposer en disant voilà, tout le monde doit se plier au jeu de cette primaire. On n'a pas pu travailler sur un programme commun en amont pour plein de raisons. Par contre, ma responsabilité, c'est d'être en capacité de réagir au bon moment et de proposer une démarche qui nous permette de construire ce programme commun via cette primaire. Je crois que c'est la seule chose aujourd'hui qui soit en capacité de sauver le peuple de gauche. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, si ce n'est ça. Donc j'espère que tout le monde va jouer le jeu. Je suis assez déçue par les réactions des uns des autres, que j'ai trouvées très hâtives et parfois même violentes. Alors même qu'il y a une vraie urgence, il me semble, et d'ailleurs, il faut voir ce qui se passe sur le site de la primaire populaire depuis 48 heures, c'est assez incroyable, en fait, la vague de gens qui ont rejoint ce mouvement-là et qui sont soulagés. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent en disant, qui m'ont fait des messages, des textos, en disant, super, enfin, on va pouvoir construire quelque chose. Donc, advienne que pourra, si je puis dire, mais en tout cas, jouons le jeu de cette primaire, et tout le monde se range derrière la personne qui en sort. Je crois que c'est la seule démarche responsable à ce stade.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, ce qui est aussi très inquiétant, et je vous pose aussi la question à vous, c'est de voir que, au-delà des personnalités de gauche qui sont pas, enfin qui percent pas, hein, on va se mentir, hein, voilà, là, en l'état actuel, les personnalités qui se présentent à gauche ne percent pas. Au-delà de ça, les thèmes de gauche dans la campagne actuelle sont parfaitement absent, en fait. Tu parlais de justice sociale, etc. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ça. Et ça, c'est dramatique. Amandine, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement évoluer maintenant qu'il y a cette prise de conscience de la nécessité d'unir la gauche ? Est-ce qu'on peut essayer de faire émerger dans le débat public des thèmes de gauche ?
Alors, je ne suis pas convaincue que ça soit l'union de la gauche qui fasse émerger des débats. Si on se rappelle un peu de la primaire des écologistes, Sandrine Rousseau a fait émerger plein de sujets, et vraiment plein de sujets de gauche dont on n'entendait pas parler, et uniquement sur ça, sur juste sa candidature. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on voit les résultats. Il suffit de prendre un peu les élections précédentes pour voir, après chaque primaire, le nombre de points que les candidats vainqueurs ou candidates vainqueurs avaient eu. Ben, que ce soit du Hollande, que ce soit Hamon, même d'autres ont eu une dizaine de points à chaque fois en plus dans les sondages. Ça, ce n'est pas passé, ni pour Yannick Jadot, ni pour Anne Hidalgo. Je ne compte pas Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il n'y a pas eu de primaire, mais contrairement à Valérie Pécresse, ça ne s'est pas passé. Donc déjà, je pense que c'est un signe qu'il faut prendre en compte, et ça veut dire, est-ce que ça intéresse les gens ce qui se passe à gauche, premièrement. Deuxièmement, les sujets. Est-ce que les sujets de gauche intéressent ? Moi, j'ai envie de dire oui, puisque, comme je dis, on l'a vu avec Sandrine Rousseau. Mais là, comme c'est abordé dans la gauche actuelle, il n'y a plus de surprise, alors qu'on est aujourd'hui sur des présidentielles de surprise. Macron a été une candidature de surprise et a fait une surprise. L'effet Pécresse, même si elle est là depuis longtemps, ça a donné une surprise. Je pense qu'à un moment donné, l'élection, quel que soit le candidat ou la candidate, il faut changer la façon de faire et arrêter de faire de la politique à papa, une candidature et une campagne à papa, c'est-à-dire faire des déplacements pour faire des déplacements, parler aux gens pour parler aux gens et rester frileux sur les sujets. Parce que les sujets, pour qu'ils montent, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de courage et de constance sur ses convictions. Alors oui, Zemmour a des sujets, pour être poli, que je trouve absolument abject, et là je reste poli. Même la droite en a d'autres. Cependant, il y a des sujets clivants au sein de la gauche également et au sein de la société qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il faut avoir le courage de porter. Et aujourd'hui, je ne suis pas convaincue que les candidats et candidates aient le courage de porter certains sujets. Anne Hidalgo est une femme politique avec un certain courage, mais sur certains autres sujets, et notamment des sujets de société, je ne trouve pas qu'elle soit à la hauteur. Yannick Jadot, c'est exactement pareil. Mélenchon sur d'autres choses, mais c'est peut-être des choses un peu plus extrêmes, gauche, sur l'Europe ou autre, mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse les gens. Donc moi, j'ai envie de dire que ce qui intéresse les gens, c'est le pendant de gauche de ces sujets d'extrême droite, et c'est l'antiracisme, c'est l'anticapitalisme, c'est le féminisme, c'est l'écologie radicale, et c'est pas des micro-mesures où on ne sait pas, en fait, où on ne voit pas de courage et on ne sait pas jusqu'où ça va aller.
Ouais, bah, je crois que tu as tout dit, effectivement, je suis bien d'accord. Il manque un peu de ferveur, en fait, dans le traitement et le traitement politique d'un certain nombre de sujets. Et effectivement, on t'a l'impression, enfin, il y a de la timidité et il y a vraiment cette peur d'aller sur certains sujets de manière très affirmée. Fabiola, tu partages, toi, cette opinion, ce constat ?
Absolument. Je trouve qu'il n'y a aucun candidat et aucune candidate qui se mouille. En fait, tout le monde reste assez vague sur des propos. Personne ne prend vraiment en constat et une idée et la porte à la fin. Et juste parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, la politique des égos et non pas des idées. Il n'y a rien d'innovant, rien de frais, rien de révolutionnaire qui est sorti des débats des présidentielles. Et on ne peut pas donner que la faute à la droite et l'extrême droite, qu'on n'a pas d'idées, parce que c'est aussi la responsabilité des candidats et candidates de porter leur combat. Et on a l'impression qu'ils sont, ils et elles sont juste en train de défendre leur petit jardin et qu'ils ont envie de garder le pourcentage de sondage d'électorat qu'on leur a déjà donné par acquis, mais ils n'ont pas cette envie d'aller au-delà. Vraiment, la peur, je pense que c'est ce qui, en ce moment, dirige toutes les intentions des candidats majoritaires de la gauche. Je ne pense pas que Mélenchon est guidé par la peur, mais pour moi, Mélenchon, je ne le mets même pas dans le même... Dans le même groupe, parce que pour moi, c'est des propos totalement différents et extrémistes. Mais je trouve qu'en parlant de Hidalgo et Jadot, bah, même l'écologie, qui est extrêmement présente, on le voit dans la mairie de Paris, Anne Hidalgo porte des propos extrêmement de progrès écologiste. Et Hidalgo et Jadot est issu de la primaire écologiste. Il n'y a rien d'innovant dans ce qu'ils disent. Il n'y a pas une vraie proposition concrète alors que les gens attendent. On dit que c'est trop tard pour l'écologie, mais on a l'impression que tout le monde se prépare, se tâte. Ils vont voir qu'est-ce qui se passe à la présidentielle pour se préparer pour 2027. Et alors, je me dis, mais en fait, si on dit que c'est trop tard, mais pourquoi on est en train d'attendre ? Donc ça ouais, m'encourage beaucoup.
C'est sûr. Je me souviens quand même qu'en 2017, malgré tout, hein, même si le résultat n'était pas foufou, on va le dire comme ça pour rester poli, Benoît Hamon avait réussi à faire émerger un thème qui avait pris et qui était devenu un des thèmes centraux de la campagne présidentielle, c'était le revenu universel. Est-ce qu'on pourrait voir émerger, et je te pose la question à toi, Lamia, un thème comme celui-ci dans la campagne, est-ce que ça pourrait permettre de revenir un peu à gauche, de déplacer un peu plus, enfin un peu le curseur à gauche, en tout cas dans les débats ?
Moi, je rejoins complètement en fait le constat qui est établi, c'est-à-dire que il y a une urgence aujourd'hui qui est celle, à mon sens, du pouvoir de vivre. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. Je trouve que quand on utilise le terme pouvoir d'achat quelque part, on dévoie déjà notre rapport au travail. C'est-à-dire qu'on considère que les gens travaillent, gagnent leur vie pour pouvoir acheter, donc payer leurs factures, et on ne parle pas du tout de ce qui fait, à mon sens, un projet de gauche, à savoir le temps des loisirs, la culture, le droit au congé, le droit à la déconnexion, les colonies de vacances. C'est des sujets que nous, on pourrait porter à gauche et qui peuvent faire rêver. Le problème aujourd'hui, c'est ce que je crois, vous disiez tout en filigrane, c'est en fait, on n'arrive pas à être audible. Je ne sais pas si on n'arrive pas à être audible parce qu'on n'a pas de projet. Je ne partage pas ce point-là parce que je crois que globalement, à gauche, il y a une chose qu'on sait faire, c'est travailler et porter des idées. Peut-être que le sujet, c'est plutôt comment est-ce qu'on les porte, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, on n'est pas sexy, on le voit bien, on n'est pas entendu, on n'arrive pas à percer l'écran, le mur du son, pardon, via les propositions qu'on peut porter. Je trouve que la proposition qui avait été celle d'Anne Hidalgo sur le salaire des enseignants, ça aurait pu porter quelque chose, et force est de constater que bon, ça a du mal à prendre. Moi, je crois que effectivement, en 2017, il y avait eu cette question du revenu universel. Il y avait aussi Benoît Hamon avait été le seul à parler de la robotisation, si vous vous souvenez des débats à l'époque. Et je crois que c'est peut-être ça qu'il faut qu'on arrive à mettre au cœur de la campagne, c'est la question du rapport au travail. Et à partir de là, parler du pouvoir de vivre, parler de la question des salaires, parler du temps de travail. Pourquoi est-ce que plus personne ne parle de la semaine de 4 jours, alors qu'il y a des pays anglo-saxons qui vont l'expérimenter? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui d'une forme, pardon, mais d'esclavagisme moderne, qui est celui des travailleurs des plateformes, qui juste sont exploités. Et là aussi, on n'arrive pas à faire émerger une parole forte là-dessus, alors qu'on porte des idées. Donc peut-être que le prisme, c'est celui-là. Peut-être que l'autre prisme, c'est celui de cette primaire qui est proposée, et de dire, mettons-nous ensemble, arrêtons les guerres d'ego. Tu as tout à fait raison, Fabiola. Travaillons à un projet commun. Et je veux dire, personne n'a vocation à faire le malin dans cette histoire. Hein. Moi, quand j'entendais certaines réactions, même Fabien Roussel, que j'aime beaucoup, mais bon... J'ai pas le sentiment qu'il y ait un des candidats à gauche qui préempte tellement le débat public qu'il peut se permettre de dire « rangez-vous derrière moi ». Hein, je crois qu'il faut beaucoup de modestie et d'humilité. Je crois que la démarche qui est proposée par la primaire populaire et par Anne Hidalgo de dire bah, « mettons-nous tous autour d'une table, discutons, faisons une élection avec des vrais débats, effectivement, où peut-être on arrivera à faire émerger quelque chose de fort, et à partir de là, bah, menons cette bataille-là, parce qu'on ne peut pas s'y passer, on ne peut pas laisser le pays dans cet état-là pendant encore 5 ans. » Enfin, moi, franchement, je suis un peu effarée en fait par ces réactions-là, et très déçue par ailleurs.
Bien, oui, la déception, je crois que c'est un bon mot en ce qui concerne le débat et l'état actuel de la gauche en France. Moi, je me faisais une réflexion en vous écoutant. En fait, quand on voit la campagne de Benoît Hamon et puis ces mesures qu'il portait, c'était quelque chose qui s'inscrivait dans un projet de société. On avait un véritable projet de société. Je trouvais que c'était ça la différence par rapport à, par exemple, d'autres candidats type Macron, qui avait écrit son bouquin « Révolution », qui n'avait rien de révolutionnaire, et où il n'y avait que des mesurettes à la marge. Bref, là, je me souviens en tout cas, l'adhésion des personnes qui ont voté pour Benoît Hamon, c'était vraiment ce projet de société. Et j'ai l'impression que ce qu'a fait aussi Sandrine Rousseau dans sa campagne, c'était vraiment proposer un projet de société, c'est-à-dire changer de société. Et là, en l'occurrence, à gauche, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment quelque chose qu'on arrive à retrouver. Alors, c'est bien, hein, tu vois, là, je suis d'accord, hein, augmenter le salaire des enseignants, etc. Mais c'est des mesures qui sont intéressantes, fortes, mais qui, à mon avis, ne s'inscrivent pas dans un projet de société global. Damien, tu voulais préciser quelque chose ?
Non, je voulais réagir à ce que tu disais. En fait, tu as totalement raison. Tu vois, c'est pour prendre un exemple très concret. Pourquoi est-ce qu'on ne reparle pas, par exemple, de la question de la légalisation du cannabis ? Alors que c'est un sujet, je crois, qui pourrait faire écho en fait, au sein de la société aujourd'hui. Je disais tout à l'heure la question de la semaine de 4 jours, mais est-ce que c'est devenu tabou ? Je ne comprends pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est frileux là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas nous dire, effectivement, bah, la semaine de 4 jours, c'est un projet de société, pour le coup ? La question de la place des femmes dans la société, aujourd'hui aussi. Je veux dire, on a quand même pendant 5 ans un président de la République qui nous a expliqué que les questions de relatives à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes étaient au cœur de son projet. Sauf que quand on regarde dans le débat, dans le détail, pardon, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il y a peut-être pas un recul. Je veux pas non plus être complètement négatif. Il y a des choses qui ont été faites, mais clairement pas à la hauteur de l'enjeu du moment, quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès là-dessus qui est absolument formidable, que je vous invite à voir, sur la fatigue actuelle de la société. Les femmes de moins de 35 ans sont celles qui sont les plus fatiguées, en tout cas qui déclarent être les plus fatiguées, pas les hommes de moins de 35 ans. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, encore aujourd'hui, quand on est une femme, la charge mentale, elle est chez les femmes. Le fait de s'occuper des enfants, pour les femmes qui veulent avoir des enfants, qui ont des enfants, c'est les femmes. Qui c'est qui culpabilise ? Parce que même quand on a une carrière, bah en fait, c'est compliqué, parce qu'on est toujours dans cette culpabilisation vis-à-vis de son entourage, de ses proches, de ses gamins. C'est toujours les femmes. Ça, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Je crois que nous, on a un discours très clair à porter là-dessus. Enfin, en tout cas, on a une ambition et on a une vision.
Ouais, ce serait... Moi, je dis... Bon, je vais dire ça comme ça, mais finalement, ça aurait été bien que Sandrine Rousseau remporte cette primaire, non ? Parce que là, c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Elle est portée très bien, moi, je dis, ces thèmes-là. Bon, bref, je dis ça pour faire plaisir à Amandine, évidemment.
Ouais, non, mais je voulais pas le dire, mais c'est vrai, sauf qu'on voit bien que c'est pas elle qui a gagné aussi les primaires. Et malgré tout, c'est des sujets qu'elle portait haut et fort. Et donc, qu'est-ce que veut la société française? Et là, on l'a vu, est-ce que le peuple de gauche veut ça? Ben, il faut encore se poser des questions. Alors, est-ce que c'est parce que il n'y avait qu'une personne nouvelle, un peu qui sortait de nulle part, qui portait et qui a fait des remous, et puis en fait, après, on l'écoutait, mais c'était... Il n'y a pas eu assez de temps pour l'écouter, ou est-ce que c'est une vraie frilosité générale? Je ne sais pas, j'ai envie de me dire que c'est un que peut-être que si tous les candidats et candidates portaient ces sujets-là, ben, on aurait l'oreille qui serait habituée et qui pourrait se dire « mais oui, il faut qu'on ait ce courage-là ». J'ai vraiment l'impression que c'est plus, des fois, c'est plus grave de parler de semaines de 4 jours de légalisation du cannabis que de parler de renvoi des étrangers et de non-accueil, quoi. Et c'est là où on marche sur la tête.
C'est clair. D'ailleurs, on va parler de tout ça, hein, parce que quand même, on ne peut pas quand même passer une semaine sans parler de Zemmour. Hein. On va parler de Zemmour, on va parler de son meeting à Villepinte surtout. Dimanche dernier, le candidat populiste d'extrême droite, Éric Zemmour, a organisé à Villepinte un meeting fidèle à son image, placé sous les valeurs de l'intolérance et de la violence. Durant cet événement qui a réuni soi-disant 13 000 participants, selon les organisateurs, des journalistes ont été agressés et insultés, des militants et militantes de SOS Racisme ont été violemment attaqués et Éric Zemmour lui-même a été agressé. Le lendemain, le candidat a affirmé qu'il n'était pas responsable de ces violences et a même parlé de provocation de la part des militantes et militants de SOS Racisme. Parmi ses supporters, on compte d'ailleurs de nombreux membres de groupuscules d'extrême droite. J'imagine que vous avez vu les images, comme moi, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est tout de même très choquant, n'est-ce pas? Et bien sûr, comment en fait on en est arrivé là? C'est juste absurde. C'est extrêmement inquiétant aussi. Et ça en dit quand même pas mal et assez long sur l'état actuel du climat politique en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabiola?
Moi, je trouve que c'est désolant que, premièrement, on doit encore voir ces images en 2021 et qu'on se retrouve, comme tu disais, toutes les semaines à parler de cet individu. Et là, j'en donne aussi une responsabilité aux médias. Je n'en donne pas la responsabilité à toi. Léa, toi, tu fais un podcast qui est basé sur l'actualité et les médias. Et on a choisi un thème extrêmement médiatisé, qui est tout à fait pertinent. Mais pour moi, il y a une réflexion, si on en est arrivé là, à faire vers la responsabilité que les médias ont dans ces débats, avec la place qu'ils donnent à ce type de personnages. Parce qu'on est dans un monde où les violences ont été normalisées parce que la haine fait remonter l'audience. Et du coup, nous, ça nous a choqués. Moi, je ne suis pas certaine que ça a choqué tout le monde. Et c'est cela que je trouve scandaleux. Je trouve qu'on devrait s'interroger où est-ce, à quel moment, en fait, la violence a pris une place si importante dans les médias que c'est normal de le voir, c'est médiatisé. Et encore, on y en joue plus, parce que ça crée du buzz, ça polarise, on en partage. En fait, moi, je trouve que la place des médias elle devrait être différente. Et c'est pas que je veux pas parler des violences, mais ma position est extrêmement à l'opposé de cet individu dont je ne veux même pas prononcer le nom, parce que je trouve qu'à l'inverse de Voldemort, quand on prononce son nom, lui, ça le nourrit. Donc je me rabaisse même pas à le prononcer, et il n'est pas question de le silencer. Le droit d'expression est fondamental dans notre pays, bien évidemment, mais la place disproportionnée que tous ceux que cet individu fait, dit, écrit, moi je trouve qu'elle n'est vraiment pas digne de notre République. Je m'attends un peu plus dans un pays démocratique.
Voilà. Lamia, toi, tu partages cette réflexion ?
Moi, je partage complètement. Je ne sais pas si c'est qu'il ne faut pas prononcer son nom. Je crois que la place qu'avait en fait ce personnage dans les médias, où il était dans une forme de ligne éditoriale qui correspondait, je crois, à ce qu'il prône, c'est-à-dire un petit agitateur de haine, polémiste à ses heures perdues, commentateur de la vie quotidienne. Quand on l'écoute quelque part, moi je me dis, mais sa vie doit être très triste, parce qu'en fait, il aime personne, en fait, il déteste tout le monde. Et notamment, il déteste en fait, ce qu'on est, ce que sont nos enfants, ce qu'est notre pays aujourd'hui.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En revanche, je crois que on peut pas considérer que ça n'existe pas, parce que ce qui est en train de se passer, à mon sens, est extrêmement grave. Il y a plusieurs choses. D'une part, il arrive à banaliser complètement l'extrême droite qu'incarne Marine Le Pen. Ça, c'est assez effroyable, en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement polémiste et tellement radical dans son propos et dans sa façon de tenir ses propos-là, qu'on en vient à se dire « Ah bah oui, bah en fait, Marine Le Pen, finalement, ça va, quoi. » Alors que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Moi, quand j'ai vu le portrait de Marine Le Pen dans Ambition intime, que j'ai regardé quand même, j'étais... assez effarée, en fait. C'est-à-dire que bah, c'est une jeune dame très sympathique, hein, qui aime bien les chats, les chattes d'ailleurs, qui vit en colocation avec une amie et qui voilà, qui fait des gâteaux et qui boit le thé en famille, quoi.
Franchement, cette scène, moi, j'ai regardé que des extrêmes, mais même Karine Le Marchand, c'est irresponsable de sa part de faire une chose pareille, quoi.
Alors, moi, je l'ai regardé en entier. Ah. Je me suis fait du mal. Mais je ne sais pas si c'est irresponsable. En tout cas, c'est juste incroyable que ça puisse se produire sur une chaîne de très grande audience à une heure de très grande écoute. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il tient des propos qui sont juste hallucinants. Enfin, je veux dire, c'est de l'incitation à la haine raciale, c'est des propos qu'on ne pensait pas entendre, négationnistes, sur ce qui s'est passé en octobre 61, sur la stature, soi-disant, le rôle qu'a pu jouer Pétain dans le sauvetage, et j'y mets beaucoup de guillemets, hein, des Juifs. Enfin, c'est juste hallucinant qu'on puisse tenir ce type de propos. Et le troisième point, pour moi, c'est que il n'en a rien à foutre quelque part des médias, il en joue complètement, et moi c'est ça que je trouve incroyable. J'ai regardé son clip, j'aime me faire mal, je sais, j'ai regardé son clip là, son annonce de candidature. Je ne sais pas si vous voyez le moment précis où il dit le système va vouloir vous faire croire que je suis, on va me cracher dessus, je ne sais plus comment il dit ça. Et quand il dit le système, à ce moment-là, précis, il y a un changement d'image et on le voit lui assis. Vous savez, vous rappelez de cette photo où il est sur l'estrade avec autour de lui plein de journalistes. C'était sur son meeting à Toulon, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il utilise les médias pour exister, pour émerger, pour se faire une place, pour polémiquer, pour insulter tout le monde. Et derrière, dès qu'il en a l'occasion, il se moque d'eux, il leur crache dessus, il les instrumentalise pour les faire pointer du doigt, il les empêche d'accéder à son meeting. Enfin, c'est juste, je trouve ça hallucinant et extrêmement effrayant. Et le dernier point sur lequel moi je suis très inquiète, c'est quand il a parlé de la provocation. Et c'est pas le seul à l'avoir dit. La droite aussi, Valérie Pécresse ou Gérard Larcher, le lendemain, sur SOS, les militants d'SOS Racisme ont parlé de provocation. Alors non, ce n'est pas une provocation, ça s'appelle la liberté de manifester, en fait. Donc oui, s'ils ont envie d'aller dans un meeting de Zemmour pour se pointer avec un t-shirt où il est écrit non au racisme, en fait c'est leur droit, on est dans un état de droit. Et je trouve ça grave qu'aujourd'hui une partie du camp dit républicain ne s'en souvienne pas, et je parle bien sûr de la droite. J'ai pas entendu non plus Emmanuel Macron condamner ce qui s'est passé, mais ça c'est extrêmement grave, on va le payer vraiment très très cher, parce que ça c'est un retour en arrière démocratique incroyable, et le fait que ça ne soit pas condamné et qu'on continue de laisser faire, je crois qu'on est en train de s'enfoncer dans quelque chose d'extrêmement grave. Donc j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, il est temps que la gauche se réveille, ce n'est pas possible de continuer comme ça et de laisser ces gens-là déconstruire ce qu'on a mis des dizaines d'années à essayer de construire. Voilà, encore une fois, beaucoup d'inquiétude pour ma part.
Merci beaucoup, Lamia. Amandine, toi, tu réagis comment face à cette explosion de violence qu'on a vue, qu'on a observée le dimanche dernier?
Lamia et Fabiola ont déjà évoqué un certain nombre de points pour lesquels je suis complètement d'accord. Ce que je voudrais dire en plus, c'est la responsabilité. Je reviens à cette question de responsabilité. La question de la responsabilité des médias, du peuple français et des politiques. La responsabilité des médias, bah ça, on en a parlé. On est aujourd'hui sur une question d'audience et on aime se faire peur et on fait peur. On l'a bien vu, et je vais être très factuelle, on l'a bien vu avec, il y a quelques années, avec les chiffres de l'insécurité qui montraient, on parlait d'insécurité, d'insécurité, d'insécurité tout le temps. Or, les chiffres montraient que l'insécurité baissait. Mais quand on en parlait, on avait l'impression que c'était plus. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire avec Zemmour. On en parle tout le temps et pourtant, ce n'est pas une pensée générale. La responsabilité de la gauche. Moi, je pense que la responsabilité de la gauche, aujourd'hui, elle est très forte. Parce que je tiens à dire, et je ne veux pas qu'on l'oublie, si Macron est au pouvoir, c'est grâce au PS. Et le PS a une responsabilité très forte après Hollande de la situation dans laquelle on est et du délitement de la gauche. Et là, la gauche encore a une responsabilité de manque de courage et du manque de conviction. À quel moment on a un candidat ou une candidate qui parle d'antiracisme? Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ce qui était dit. Outre le droit de manifester, avoir un t-shirt avec non au racisme, en fait, quand on se fait tabasser derrière, c'est juste le racisme est pénalisable par la loi. C'est un fait pénalisable, c'est un crime. Donc, en fait, il n'y a même pas de question à savoir si c'est le droit de manifester ou pas, c'est juste une question légale. Et à quel moment on entend, en fait, cette question de vraiment de dire le mot, on doit dire le mot antiracisme. Et je pense que ce que fait la gauche, c'est qu'elle a peur d'utiliser des mots, contrairement à la droite. Et la droite se retrouve à utiliser des mots en toute décomplexité, des mots racistes, des mots xénophobes, des mots homophobes, tout ce que vous voulez. Mais ils sont complètement décomplexés parce qu'ils y croient derrière. Alors que nous, on a l'impression que du côté de la gauche, on n'y croit pas. On parle, on dit « oui, c'est pas bien, oui, machin, non, mais Zemmour, machin, Le Pen, machin, mais non ». Employons les mots anti-racisme et anti-homophobie, et on les assume. Et je pense qu'il y a un manque, il y a vraiment, c'est pas assumé, et il y a un manque là-dessus, et moi j'en veux un petit peu à la gauche là-dessus, parce que on parlait tout à l'heure d'individualisme, mais plus que ça, j'ai l'impression qu'on est dans une course de parti à un peu un battle royal de quel est le parti de gauche qui restera. Pour moi, ça, c'est irresponsable. Donc, le projet de société, il est aussi par les mots, il est aussi par le courage, et la gauche n'utilise pas les mots qu'elle devrait utiliser et les marteler jusqu'à ce que ça rentre, comme le fait la droite. Et enfin, pourquoi je dis les citoyens et les citoyennes Et bon, c'est lié à l'État, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un oubli d'histoire. J'ai vraiment l'impression que les gens ne font pas le lien entre un Zemmour ou une Le Pen avec un Boris Johnson, avec un Trump, et pour arriver au point Godwin avec un Hitler. Quand on sait les enchaînements, comment ça s'est passé, les crises économiques, les crises de migration, pour arriver à des dictatures fascistes, on joue plus, c'est-à-dire que ces gens-là, s'ils arrivent au pouvoir, ils ne bougeront pas, et on aura beau dire ce qu'on veut et descendre dans la rue, mais ça ne fonctionnera pas. Et donc c'est maintenant, en fait, qu'il faut agir, et c'est là où je pense que les citoyens et les citoyennes ont une forte responsabilité de, outre s'ils ne se retrouvent pas à gauche parce que il n'y a pas assez de puissance et il n'y a pas assez de conviction, bah, c'est leur conviction propre où on peut descendre dans la rue, et on peut, comme ça a été fait à Marseille, dire non, on ne veut pas de racisme, on ne veut pas plein de choses quand il y a Zemmour qui passe, et il faut arrêter de banaliser tout ça. Et oui, il faut... on est là, on est 3-4 à faire ça, de rebondir et de commenter. Mais moi, je suis pour l'action et plutôt qu'être spectatrice, parce que ça me fait peur, et ça me fait peur parce que J'ai l'impression que l'histoire est en train de se reproduire et qu'on a complètement oublié que l'histoire a permis les choses les plus horribles du XXe siècle et on vogue là-dessus comme si c'était rien, alors que ce qui se dit en toute impunité aujourd'hui, tout doit être pénalisé par la loi parce que c'est pas possible. Le révisionnisme, la xénophobie, c'est l'antisionisme, c'est scandaleux, quoi. Et c'est à nous aussi de nous bouger. Et je pense que c'est là où, sur la primaire populaire, je trouve leur intention bonne de vouloir rassembler. Mais je trouve que ça manque de populaire. Ça manque de populaire et ça manque de gens. Et ben, pour rassembler, il faut aussi que ce soit les gens. Et on sait très bien que les politiques, aujourd'hui, répondent à la population. Et comme ça a été pour les Gilets jaunes, comme ça a été pour d'autres choses, moi, j'aimerais bien qu'on organise des choses en disant « Non, je refuse que dans mon pays, j'ai des gens xénophobes qui puissent se présenter à la présidentielle. C'est pas possible. »
Tout à fait. Ça me fait penser d'ailleurs, et ça fait un bail que je l'ai relu, « Le monde d'hier » de Stefan Zweig, qui dépeint en fait l'état de l'Europe avant la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé. C'est la résonance en fait contemporaine de cet écrit m'effraie, et ça fait quelques années déjà que je l'ai relu, et je me dis chaque jour, putain, on se retrouve en fait dans la même dans un climat qui est très très similaire. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut organiser une riposte en fait, et une riposte rhétorique aussi. C'est tout à fait ça. Fabiola, tu voulais réagir?
Oui, alors je suis entièrement d'accord avec Amandine, et c'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de manque d'idées et de peur, de frilosité chez les candidats et les candidates de gauche. En fait, on réagit par rapport à ce personnage qui monopolise les thèmes dont on discute. On n'y met pas les mots et on suit et on réagit en fonction de ce qu'il dit. Toute proposition, il propose une histoire négationniste, on dit bah non, en fait l'histoire n'était pas comme ça, etc. Il propose des choses racistes, on dit, ah non, nous on n'est pas vraiment raciste. Mais en fait il n'y a pas de courage des thèmes et on ne parle pas des choses dont ce pays a besoin de parler. Les vrais thèmes ne sont pas là du tout. C'est exactement ça que je voulais dire. Lamia disait que les programmes et les idées sont là, j'en doute absolument pas, mais ils sont pas communiqués de manière assez claire, mais en réaction à ce que ce personnage dit. Où sont les vrais thèmes importants pour ce pays? On n'entend pas parler de jeunesse, on n'entend pas parler de chômage, on n'entend pas parler de retraite, de précarité, des relances économiques. Tout ce qu'on entend parler, c'est on entend parler de passé, de ce qui s'est passé, etc. Mais moi, j'ai envie que la présidentielle parle du futur. Moi, j'ai envie de le discours de ce qu'on peut construire ensemble. Je n'ai pas envie qu'on débat sur la révision de Pétain et de la République de Vichy. On n'a presque pas besoin de réagir à ça. C'est important de le condamner, entièrement d'accord qu'il n'y a pas eu assez de condamnations, mais rebondir en permanence sur ces sujets, pour moi, c'est nocif pour les débats. J'ai envie qu'on parle de futur. Voilà. Et je pense que c'est la responsabilité des candidats et candidates à la présidentielle de s'emparer du sujet, de le faire propre et de le porter à plus grande échelle pour que aussi, comme Amandine Léa disait, que les citoyennes et les citoyens se sentent inspirés aussi pour descendre dans la rue. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité politique d'inspiration à avoir en ce moment parce qu'il y a aussi une... un peu une effroi, comme Lamia l'a dit plusieurs fois. Il y a vraiment un effroi de la population vis-à-vis de tout cela. Et on a besoin de plus d'inspiration et d'y croire plus.
Oui, c'est vrai que c'est aussi le rôle du politique que d'être un rôle modèle, en fait, pour les citoyens et un sujet démocratique et un sujet... qui fait avancer le débat et qui donne envie en fait de s'engager politiquement, clairement. Lamia, je te laisse peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît.
Ouais, je voulais juste une petite réaction en fait pour rebondir sur ce que disaient Fabiola et Amandine, et notamment Amandine. Moi, je veux bien qu'on continue de se dire que le PS est responsable de l'arrivée de Macron au pouvoir. Oui, sans doute. Je crois qu'en en 2012, par ailleurs, il y a eu un certain nombre de partis différents qui se sont alliés dans cette aventure-là qui a été celle de 2012 et qui globalement a été un échec collectif à certains endroits. Moi, je n'ai pas de problème à pouvoir le dire. Je crois que pour réagir à ce que dit Fabiola, peut-être que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on redevient sexy, parce que clairement aujourd'hui on l'est pas en fait. C'est ça que je voulais dire, tu vois, c'est pas tant évidemment qu'on a un programme, on a des idées. Je crois que là, en quelques minutes, on a pu égrener un certain nombre de propositions qu'on avait et d'ambitions qu'on avait pour le pays. Simplement, on n'a pas peut-être la bonne incarnation aujourd'hui. Les gens n'ont pas envie de nous écouter parce que, bah, clairement, ce qu'on peut raconter peut donner cette impression un peu poussiéreuse de, en gros, les partis de gauche sortis du placard. Plein de toiles d'araignée. Et peut-être que notre rôle aujourd'hui, moi je le vis comme ça, qui est celui de notre génération politique, c'est de porter des choses différemment, c'est de réfléchir aussi différemment, et c'est de secouer un petit peu tout ça pour dépoussiérer ça et essayer de renouer avec les citoyens. Moi, je suis la plus jeune députée socialiste de mon groupe, hein. C'est aussi une volonté de renouvellement de notre part. Je suis profondément socialiste, donc profondément de gauche. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui il y a un autre chemin qu'il faut qu'on arrive à esquisser, et pour ma part, il est hors de question de laisser tomber ce combat-là, parce qu'il est ô combien d'actualité, et j'en ai vraiment ras-le-bol, effectivement, de me placer comme commentatrice de ce que fait ou ne fait pas Zemmour. J'ai plutôt envie qu'on refasse rêver les gens. T'as complètement raison, Fabiola, parlons du futur et arrêtons de parler du passé. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais essayer de m'atteler à faire avec quelques-uns, j'espère, et qu'on sera le plus nombreux possible.
Eh ben, bon courage, hein. Et oui, effectivement, un mot très important, c'est l'incarnation d'un programme, l'incarnation d'idées. Ça manque terriblement, parce qu'on le voit même chez LFI. Moi, je commence à en avoir marre. Je suis désolée, j'en ai marre de Jean-Luc Mélenchon, quoi. Et je trouve qu'en fait, il incarne mal les idées de ce parti et que c'est bien dommage. Moi, j'aimerais bien voir une Mathilde Panot, j'aimerais bien voir une Danielle Obono, parce qu'on parle du peuple, on se dit antiraciste, on se dit féministe, etc. Mais finalement, sur le devant de l'affiche, c'est pas ces gens-là qu'on pousse c'est terrible. Donc, il y a un énorme enjeu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut se battre pour ça. Ça, c'est clair. On va passer à vos actus de la semaine, ce dont vous vouliez nous parler. On commence avec toi, Amandine. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Alors, moi, j'ai un sujet à la fois forcément écologiste et féministe. Ce dont je souhaitais parler, c'était ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, parce que c'est un sujet qui m'importe assez fortement. On a eu donc la fin du règne d'Angela Merkel et un renouvellement par une coalition de gauche. Une coalition de gauche avec une femme qui devient ministre des Affaires étrangères. Et ça m'inspire dans le sens où je ne suis pas inspirée par la politique économique allemande ou certaines choses, mais je sais tout ce qu'a fait malgré tout Angela Merkel. Et je vois une évolution, notamment sur la partie gauche et sur les alliances et sur les coalitions. Et là, je me dis, est-ce qu'on serait capable de le faire ou pas en France? Et je n'en suis pas convaincue. Et je ne serais pas convaincue, notamment, qu'on puisse être en capacité d'aborder les sujets comme la fin du charbon, comme la légalisation du cannabis, sans que ça soit complètement enterré. Et je suis assez admirative de ce qui est en train de se faire, où en fait on devrait, pour une fois, plutôt que suivre toujours le train économique de l'Allemagne pour ressembler à l'Allemagne, on pourrait suivre un peu le train sociétal. Et le train sociétal est en train de prendre une forme qui m'intéresse énormément, et une forme politique aussi qui me paraît assez forte, même si elle aurait pu l'être plus, notamment avec ce qui était crédité les Verts avant cette élection. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Donc, moi, je pense que l'actualité qui marque, c'est vraiment ce qui s'est passé cette semaine. Outre le fait que Angela Merkel ait choisi Nina Hagen comme chanson pour son départ, et je trouve ça hyper fort. Je trouve qu'elle est restée quand même assez proche de ses valeurs. On l'aime ou on l'aime pas, c'est une chose. Mais on peut pas lui enlever ce qu'elle a fait pour l'Allemagne. On peut pas lui enlever le personnage qu'elle était, la simplicité et la façon humble dont elle a incarné le pouvoir. Et j'aimerais bien, en tout cas, si on disait de plus parler du passé et parler du futur, j'aimerais bien imaginer un futur français. Je le vois pas, hein, mais j'aimerais bien l'imaginer. Un futur français où on sort du présidentialisme, on met des hommes et des femmes, et des femmes notamment courageuses, aux plus hautes fonctions de l'État, en capacité de parler et de faire des coalitions, des accords pour la société. Et donc ça, c'est ça qui me porte aujourd'hui.
Bah, je suis bien d'accord, c'est clair, mais je pense aussi qu'il faut changer de régime politique, ça c'est certain. Merci beaucoup Amandine. Fabiola, de quoi voulais-tu nous parler, toi ?
Moi, je rebondis sur ce qu'Amandine a dit pour parler de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, dont on a entendu le discours de 2h30 de Macron jeudi. La dernière fois que cela était arrivé était en 2008, si je ne me trompe pas, il y avait l'Union européenne faisait face à la crise économique, une plus grande crise financière de l'histoire. Les ambitions européennes étaient très différentes. Et je trouve que le discours, le projet d'un président qui s'appelle européiste, avec des guillemets, comme on ne voit pas les guillemets dans le podcast, est vraiment très. Son projet est très vaste, mais pas du tout ambitieux. Et j'ai rejoint la coalition allemande qui veut se baser sur la conférence sur l'avenir de l'Europe pour des réformes institutionnelles, demande une évolution vers une Europe fédérale, les principes de subsidiarité, de proportionnalité, le féminisme beaucoup plus présent. On est sur un élan beaucoup plus lancé, beaucoup plus européiste. En fait, on a eu un discours où les ambitions restaient pareilles de celles des prédécesseurs. L'occasion se chevauche avec les présidentielles. Du coup, on en a pendant 6 mois, jusqu'à avril, on va faire campagne. J'ai mes demandes, comment on peut prendre le rôle aussi de présidence sur le Conseil de l'Union européenne. Et du coup, quelle importance on lui donne, alors que le moment est venu pour vraiment faire bouger les choses. Et je sais bien qu'il y a des mouvements pro-européens qui avaient demandé à Macron de reporter cette présidence, parce que c'est possible de le faire, pour lui donner beaucoup plus de visibilité et d'attention après les présidentielles. Et je trouve que ça va... Ben en fait, c'est un discours qui est un peu hypocrite et qui cloche avec l'intérêt européen que Macron, même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature, porte à l'Europe. On est bien loin du projet allemand ambitieux et on est bien loin de ce qu'on a besoin en ce moment, parce que tous les défis dont on parle, le défi féministe, le défi écologiste, sortir du charbon, en fait, si on y arrive qu'en France, on ne va pas aller très, très loin. Il faut penser à cela de manière beaucoup plus beaucoup européenne, de manière beaucoup plus large. Et du coup, moi, je voudrais bien que cette occasion soit prise pour faire un pas en arrière aux pays sur leur souveraineté, pour donner un élan européen, pour faire un saut plus large à l'Union européenne.
Merci beaucoup Fabiola, c'est vrai que c'est un thème très très important et le chevauchement avec la campagne présidentielle est pas très heureux en fait, ça c'est clair. Lamia, toi de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît ?
Alors moi c'est un sujet beaucoup moins sérieux, pour le coup je voulais vous partager un coup de cœur. J'ai découvert une petite série là, que je regarde le soir, c'est des petits épisodes de 20 minutes comme je n'ai pas souvent le temps de pouvoir regarder la télé, c'est Working Moms, qui est une série canadienne de quatre copines qui vivent à Toronto. Donc, c'est des épisodes de 20 minutes qui se regardent assez facilement le soir avant de se coucher pour couper un peu. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série parce que c'est donc quatre copines un peu déjantées, je dirais, qui arrivent à concilier, en gros, comment concilier sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie de couple, comment gérer ses enfants. Et voilà, moi, j'ai deux enfants en bas âge que peut-être vous entendez hurler à côté, donc j'imagine qu'ils sont en train de se taper dessus, qui ont 5 ans et 1 an et demi. Et en fait, c'est hyper dur, en fait. Et ce que je disais un peu tout à l'heure pour les mamans, les femmes de moins de 35 ans, quand en plus on est maman, c'est pas toujours évident de réussir à tout concilier. Donc notamment, moi, je me suis déjà retrouvée, il y a des scènes dans le film où j'avais l'impression de me revoir en galère, évidemment, de crèche, de babysitter, sans personne pour garder les mômes. Et donc à me taper des réunions avec ma toute petite qui à l'époque avait 1 an et qui évidemment à ce moment-là décide de passer en mode urgence couche immédiatement. Et donc on se dit bon, comment rester extrêmement sérieux et avoir l'air très impliqué dans ce que je dis tout en changeant la couche de mon enfant. Et je crois que voilà, c'est ça me fait du bien de voir ça et de me dire bon, en fait, bon, ben, ça va, je suis pas toute seule à subir ça. Et voilà, j'aime bien cette série, je la trouve fraîche.
Trop cool, merci beaucoup Lamia. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos interventions, c'était génial de vous recevoir. Je vais d'abord passer le micro à Clotilde Lecoz avant de conclure cet épisode avec vous. À toi Clotilde pour ta chronique internationale.
Merci Léa. Cette semaine, on se penche sur le pragmatisme des relations diplomatiques entre la France et les pays du Golfe et on fait un petit tour de la presse dans cette région pendant la visite du président Emmanuel Macron. Entre le vendeur et l'acheteur, Dieu ouvre la voie du profit. Voici comment Al-Bayan analysait le 6 décembre dernier la visite du président Emmanuel Macron aux Émirats Arabes Unis. Selon ce journal émirati gouvernemental, on ne doit la vente de nos rafales français qu'au fait que la négociation des Émirats avec les États-Unis se soit perdue dans les, je cite, « labyrinthes juridiques de Washington ». D'après le dicton, si le vendeur n'est pas prête à vendre, ici les États-Unis, alors l'acheteur en trouvera toujours un autre, ici la France. Car c'est Dieu qui ouvre la voie du profit. La France n'aurait donc en rien arraché un contrat des mains des Américains, se vengeant ainsi d'un contrat raté avec l'Australie, et Al-Bayan nous propose une vision beaucoup plus pratique. Si la France a eu le contrat, c'est grâce à la volonté de Dieu et à la longueur de la négociation américaine. Leçon de pragmatisme numéro 1. D'un côté, la France permet aux Émirats Arabes Unis de s'armer rapidement et de l'autre, les Émirats Arabes Unis aident la France à sauver son industrie avec un contrat à 17 milliards d'euros pour Dassault et Airbus. Après les Émirats, la France s'est rendue au Qatar où l'on parle également d'avancées significatives dans les relations entre Paris et Doha. D'un côté, le Qatar nous aide à évacuer des ressortissants français d'Afghanistan et reste le premier investisseur de la région pour la France, mais cela sert avant tout à améliorer sa position dans la région. Le journal gouvernemental Al Rayan ne manque pas de rappeler que Total a repris en 2017 le contrat originellement attribué aux Danois afin de renforcer la position qatari au sein des pays exportateurs de pétrole. Leçon de pragmatisme numéro 2. D'un côté, la France permet au Qatar de devenir un acteur plus significatif au sein des pays de la région. De l'autre, le Qatar devient et reste le premier investisseur de la région en France. Après le Qatar, le président Emmanuel Macron s'est rendu en Arabie Saoudite. Dans la presse locale, aucune mention du fait que le président français soit le premier chef d'État à rencontrer Mohamed Ben Salman depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Pour Bloomberg, c'est une manière diplomatique d'aider l'Arabie Saoudite à tourner la page. Asharq al-Ossat, l'un des plus importants quotidiens panarabes, salue d'ailleurs la transformation et la véritable maturité de la politique française. Durant la visite, le président Emmanuel Macron et le prince Mohamed Ben Salman ont appelé le Liban et discuté la question du nucléaire iranien. Leçon de pragmatisme numéro 3. D'un côté, la France aide l'Arabie Saoudite à redorer son image sur la scène internationale et de l'autre, l'Arabie Saoudite aide la France à polir son image dans la crise politique libanaise et à prendre un rôle plus sérieux dans les discussions nucléaires. Et le journal saoudien Arab News démontre bien l'importance de bien choisir sa stratégie à l'international, là où le président Hollande courtisait Riyad et le président Sarkozy Doha pour développer leurs relations commerciales. Le président Macron a choisi une approche plus globale, mais pour lutter contre Daesh. Dans un article intitulé « L'influence internationale chancelante de la France », Le journal considère que cette stratégie du président français est devenue trop étroite, ce qui le fragilise même dans son pays. Car pour Arab News, la stratégie antiterroriste de la France a beaucoup servi à renforcer les voix xénophobes à l'intérieur du pays.